C'est bon ? Ça passe ? Ouais ? Non ? D'accord, très bien. C'est bon, c'est bon. J'attends ton signal. Laurent. Merci d'avoir préparé pour la louange. Mais du coup, ouais, ce sera plus pour ce soir, à cause de la contrainte temps. Ouais. Okay. C'est bon. Rebonjour chers frères et sœurs. Rebonjour pour ceux que j'ai pas vus. Franchement, aucune prétention de ma part et beaucoup de crainte parce que c'est ma première. Voilà, juste en tant que frère, j'aimerais échanger ma lecture de Romains 9, qui est un chapitre difficile. Mais c'est un peu ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, c'est super intéressant. Le temps est peut-être certes court, mais je viens vraiment avec ma personnalité. Et je veux vraiment vous encourager à travers ce passage qui est vraiment très fort et très profond. Mais avant cela, j'aimerais tout simplement qu'on remette ça entre les mains du Seigneur. Et puis, si vous pouvez m'avoir dans vos pensées au moment où je vais partager... je remercie le Seigneur doublement, quoi. Voilà, merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes où on peut étudier ensemble ta parole. C'est vachement important, Seigneur, et je veux tout simplement te remettre entre mes mains, Seigneur, tes mains, Seigneur, ce que je vais dire par la suite. Vraiment que ce soit vraiment tes paroles, Seigneur, et que ce ne soit pas les miennes. Et tu connais vraiment chaque personne qui est là. Et je te prie vraiment que ta parole puisse nous enseigner, puisse nous corriger et puisse nous permettre, Seigneur, d'être fortifiés pour la journée et pour les journées à venir. Nous te remercions, Seigneur, et dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, on va arriver sur Romains chapitre 9. Et en fait, ce qui est intéressant, comme vous pouvez voir, c'est que les deux versets qu'il y a juste avant, dans Romains chapitre 8, ça montre un truc de fou. En fait, ce truc, c'est l'amour du Christ. Cet amour, il est tellement fort que rien ne peut séparer en fait de cet amour. Vous pouvez le voir, hein, les forces qu'il y a, hein, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, bref, toutes les dimensions en trois dimensions ne peuvent séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ est tellement fort. Et d'un autre côté, Paul, il vient avec cette certitude. Paul, c'est quelqu'un qui a pu prêcher à beaucoup de nations. Au moment où Paul s'est converti, en fait, il y avait un truc qui était assez incroyable, c'est que Dieu lui a dit, tu seras vraiment l'apôtre des nations. Tu iras prêcher l'évangile partout. Et tu as cette bonne nouvelle à répandre, cet amour du Christ à répandre à ceux qui sont perdus. Et d'un autre côté, quand vous arrivez dans le chapitre 9, quand on arrive là, il y a un mot qui apparaît. On va déjà lisez le seul déjà, très rapidement, la première partie qui est entre le chapitre 1 et le chapitre 5. Verset, pardon. Merci. Ouais. Alors là, ce qui est particulier, c'est que moi, il y a un mot qui m'a vraiment touché, c'est la tristesse que Paul il a. D'un côté, juste avant, dans le chapitre 8, il parle d'assurance. Et puis juste après, on arrive à un moment donné où Paul parle de tristesse. Et ça peut paraître un peu paradoxal, ça peut paraître un peu contradictoire. Comment ça se fait que Paul, qui est convaincu par l'évangile, par toutes ces choses-là, par la suite, juste après, au chapitre 9, il éprouve une grande tristesse. Tu vois, tristesse, elle est grande. Et en plus, il y a un chagrin qui est continuel. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'on est chrétien, on a cette joie, même si c'est difficile, on a cette joie. Et pourtant, d'une manière continuelle, Paul, il a ce chagrin, il a cette grande tristesse. C'est étrange. Et il a une grande tristesse pour, on peut le voir, verset 3, il a une grande tristesse vraiment pour ses frères juifs, les Israélites. Et en plus, il confirme cette tristesse, il appuie cette tristesse. On peut le voir aussi sur le verset 1, dès le début, il dit la vérité en Christ, tu vois. Donc sortir comme ça le mot, et je te dis ça d'une manière vraie, quoi. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point, tu vois. Il continue vraiment dans cette optique-là. Et puis après, comme tu peux voir, il y a la conscience qui parle. La conscience, c'est un autre moi. C'est un autre moi à l'intérieur qui est en train de me dire à moi-même et qui témoigne par le Saint-Esprit. De quoi ? Bah, le fait, en fait, qu'il éprouve une grande tristesse. Et dans son cœur, il a un chagrin qui est continuel. Et des fois, on se dit, mais est-ce qu'il faut forcément être triste ou est-ce qu'il faut ne pas être triste ? Des fois, on se dit que la tristesse, c'est pas bon à avoir, ça peut nous impacter dans toutes ces choses-là, dans notre manière d'agir par la suite, dans notre enthousiasme et toutes ces choses. Mais d'un autre côté, Paul, il est là et il ne s'en cache pas. Il éprouve une grande tristesse. Il a dans ce cœur un chagrin qui est continuel, tu vois. Et c'est encore plus fort, vous voyez, par la suite. Il y a marqué « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. » Alors là, tu ne comprends plus rien, quoi. Tu te dis, mais comment ça, Paul limite, il veut être séparé, il voudrait, au conditionnel, être séparé de ses frères, enfin, de Christ pour ses frères. Et moi, ce que j'ai compris vraiment de ça, vraiment, c'est surtout que cette tristesse-là, c'est une tristesse qui est sincère et c'est un cœur qu'il a pour ceux qui ne sont pas sauvés. Donc tout à l'heure, quand on va sortir, Dieu nous permet la tristesse. Jésus lui-même a déjà été triste. Jésus avait été touché, il avait cette compassion vraiment pour les autres. Et si nous, on peut avoir cette tristesse, tu vois, mais cette tristesse en Christ, tu vois, pas une tristesse qui nous décourage. Parce que Paul, il était, quand on voit ce qu'il a fait, il n'était pas découragé. Mais cette tristesse, parce que les autres personnes qu'on va voir, bah c'est des gens qui ne sont pas réconciliés avec le Christ. Vraiment, je vous invite à voir ça. Et n'ayez pas peur devant Dieu, quand vous éprouvez vos sentiments, de montrer également cette tristesse. Si vous ne l'avez pas également, vous pouvez également demander. Paul l'a fait, et quand on voit par la suite le résultat que ça a donné, cette grande tristesse était une tristesse qui était sincère. Ce qui est incroyable, c'est que vous voyez, hein, verset 4, verset 5, il le dit texto en plus. Hein. Normalement, les Juifs, ils ont tout. Ils ont tout, tout, tout. C'est ceux qui ont connu Dieu avant tous les autres peuples. Il y avait l'adoption, il y avait la gloire, il y avait les alliances, il y avait la loi, ils ont su la loi avant tout le monde, le culte, les promesses. Et les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, toutes ces choses-là. Et quand on voit dans le détail les patriarches, quand on voit la manière dont Dieu s'est révélé progressivement, les Israélites, ils ont bénéficié de tout ça, de la relation déjà que Dieu avait avec Abraham. Certains connaissent l'histoire d'Abraham, comment Dieu s'est révélé progressivement. Isaac, Jacob, on en parlera par la suite. Et le plus fort aussi, c'est que, et de ceux qui est issu des patriarches, bien évidemment, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Donc ils savaient en avance, ils avaient déjà en avance la promesse du Messie. Et d'un autre côté, il éprouve une grande tristesse pour ces Juifs, ses compatriotes de sa propre chair, qui, ces gens-là, justement, ils avaient tout pourtant, et pourtant c'est des gens qui ne sont pas venus à Christ. On a qu'à voir l'exemple très clair, c'est la manière dont ils ont rejeté le Christ. Ils ont même préféré Barabbas à Christ, juste avant de la mort du Christ. Et là, on va continuer, on va aller du verset 6, d'accord ? On va continuer du verset 6 au verset, laissez-moi regarder un petit peu, verset 13. Je vous invite à le lire personnellement, du verset 6 au verset 13. Là, vous pouvez voir aussi que des nouveaux protagonistes apparaissent entre le verset 6 et le verset 13. On voit le nom d'Abraham qui arrive, on voit Isaac, on voit Rebecca, on voit Jacob, on voit Ésaü. Et ce qui est particulier, c'est que au verset 6, au début, on se demande, mais est-ce que la parole de Dieu, elle est restée sans effet ? Est-ce que Dieu, finalement, il a un peu renié à tout ce qu'il avait promis? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Juifs sont devenus les Juifs. On peut le voir déjà au début, les Juifs, c'est les descendants de Jacob. On appelle Jacob Israël. Dieu, à un moment donné, il a dit à Jacob, tu seras appelé Israël. Le père de Jacob, c'est Isaac. Et le père d'Isaac, c'est Abraham. Et au début, Dieu, il a commencé à parler à Abraham et il a dit justement au verset 6, vous pouvez voir, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et ça, c'est quelque chose de très fort, parce que Abraham, il a eu Isaac comme fils, mais il a eu également Ismaël. Je ne sais pas si certains connaissent un peu ce passage-là. Et ce qui est particulier d'Isaac, c'est que Abraham, il a eu Isaac très très tardivement. Je crois que c'était à 80 ou à 90 ans. Normalement, c'est quelque chose d'invraisemblable. On ne peut pas avoir un enfant à cet âge-là, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et Dieu, dans son plan, il avait déjà dit à Abraham au début qu'il serait justement en Abraham, il y aurait une grande nation qui serait bénie. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que Abraham a eu un enfant avec sa servante qui s'appelait Agar. Mais ça, c'était pas la manière dont Dieu avait prévu les choses. Et ça, c'est un peu Ismaël est né justement par ce moyen-là. En revanche, pour Isaac, c'est différent. Isaac, c'était l'enfant de la promesse, c'est Dieu qui a dit justement que Sarah aura un enfant, et cet enfant-là, c'est Isaac. C'est vraiment incroyable, c'est que toutes les choses viennent de Dieu, quoi. Si c'est Dieu qui décide. Des fois, on utilise nos propres moyens pour faire les choses, pour accomplir la promesse de Dieu. Donc Abraham justement était avec, avec Agar pour enfanter Ismaël, mais Dieu il avait un autre plan quoi. Il a utilisé justement Sarah. Il a utilisé un moment où Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant pour vraiment montrer que en fait tout cela, ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Le plan de Dieu, c'est lui qui l'accomplit. Et par la suite, ce qui est incroyable aussi, c'est que Isaac, il a deux enfants via Rebecca, des jumeaux. Et ces jumeaux-là, c'est Ésaü et Jacob. Normalement, si on réfléchit à la manière humaine, celui qui hérite de tout ça, le descendant qui doit hériter, c'est Ésaü. Mais Ésaü, lui, il n'a pas hérité de tout ça. Normalement, c'est l'aîné qui hérite les choses dans beaucoup de cultures. Mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé, c'est que on peut le voir au verset 13, c'est que l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est vraiment particulier. Il y a un mot qui apparaît, vous voyez dans le verset 11, je ne veux pas trop entrer dans le détail parce que c'est assez compliqué, c'est le mot élection. Vous pouvez le voir dans le verset 11, il y a marqué le dessein, l'élection de Dieu. Dieu, il est souverain, c'est Dieu qui choisit les choses. Nous, tout à l'heure, quand on va sortir, il ne faut pas oublier, voilà, dans tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui élit. Et regardez, c'est fort, hein, parce qu'il y a marqué le dessein d'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres. Tu vois ? Mais par la seule volonté de celui qui appelle. Et ça, c'est incroyable parce qu'on le voit déjà, il y a comme s'il y avait des indices dans l'Ancien Testament. On le voit déjà dans Abraham, dès le début, Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Par la suite, on le voit, normalement, l'héritage, il doit arriver par Ésaü. Eh ben non, c'est arrivé par Jacob. C'est l'élection de Dieu, tu vois. C'est pas quelque chose de mérité, c'est quelque chose qui vient vraiment de Dieu. Et après, on va continuer au verset 14. C'est « Que dirons-nous tous ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ?» C'est vrai que c'est super que Paul y mette ce commentaire-là, parce que moi aussi, la première fois que j'ai lu ça, je me dis « Mais Dieu, il ne serait pas injuste. » Dieu, il mettrait... Est-ce qu'il met... comment ça se fait qu'il choisit d'aimer quelqu'un, Jacob, et il choisit de haïr Ésaü ? Mais c'est pas normal, quoi. Ça devrait pas être comme ça. Mais en fait... Tu vois, et en plus, Dieu, en quelque sorte, il en remet une couche au verset 15. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Mais on voit au verset 16 une réponse par rapport à ça. Tu vois, Dieu il dit que tout ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait la miséricorde. Et en fait, il y a quelque chose qui touche dans l'évangile, c'est que la Bible dit que nous sommes tous des gens qui sommes condamnés par notre manière de vivre, par notre manière d'agir. Nous nous éloignons naturellement de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché, ça nous sépare de lui. Donc en fait, normalement, voilà, on ne mérite pas la faveur de Dieu, parce que nous sommes des gens qui avons péché, qui avons désobéi à lui. Si Dieu choisit d'aimer quelqu'un, normalement, nous ne sommes pas des gens qui sommes censés être aimés parce que, par notre péché. Nous avons choisi délibérément de nous éloigner de lui. Mais, ce qui est incroyable, c'est que Dieu a encore choisi de nous aimer. C'est ça la force de Dieu. Tu vois. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. L'amour de Dieu ne dépend pas de notre manière de nous comporter. Dieu, il a choisi de nous aimer. En tout cas, là, il a choisi d'aimer Jacob et pas Ésaü. On pourrait se dire, mais c'est injuste. Pourquoi tu choisis de ne pas aimer Ésaü et d'aimer Jacob ? Et bien, c'est là où on arrive à un truc très important, c'est la notion de la grâce. La grâce, c'est de prendre conscience déjà que c'est quelque chose d'immérité, que c'est quelque chose que quelqu'un d'autre nous donne. Et vu qu'on ne le mérite pas, qui sommes-nous pour dire comment ça se fait que c'est injuste? Normalement, on ne mérite pas ces choses-là. Si Dieu donne par sa pure grâce, il donne par sa pure grâce. C'est comme, imagine, tu vois quelqu'un, un SDF qui est devant toi, si tu as envie de lui donner 5000 euros, tu lui donnes 5000 euros. Puis après, s'il y a l'autre SDF qui est à côté qui dit, mais pourquoi lui il a 5000, moi j'ai pas? Bah, de toute façon, tu n'as aucun mérite d'avoir ces 5000. C'est une pure grâce, tu vois. Si j'ai envie de te donner 5000, bah, je te donne 5000. Bah, là, c'est pareil. C'est un peu ce... On peut voir dans plein de trucs. Hein. Franchement, quand vous regardez un peu dans la société, tu peux voir plein de trucs. Il y a un truc qui marche très bien, c'est quand on parle de grâce, il y a un effet qui s'appelle la grâce présidentielle. C'est-à-dire que dans notre constitution, on a un président. Et ce président, ce qu'il veut, il peut, lors du 14 juillet, la parade chaque année et tout, il peut choisir une personne qui choisit de gracier, partiellement ou totalement, en lui disant, voilà, toi, ta peine, par exemple, je vais te réduire ta peine de, je sais pas moi, t'as 30 ans de prison, bah, je vais te la réduire à 15 ans ou je vais te la réduire à 10 ans, par pure grâce. Tu vois, t'as pas mérité, normalement, t'es condamné à 30 ans, c'est ça, c'est la loi qui te dit que t'es condamné à 30 ans. Et finalement, le président, il arrive et dit que, c'est la Constitution qui te le permet aussi, bon bah, t'as pas 30 ans, mais t'as plus que 10 ans ou t'as plus que 15 ans. Tu vois. Donc par rapport à cette réponse à l'injustice, il ne faut pas associer la notion de grâce avec la notion de justice. La grâce, ça dépend de la souveraineté de Dieu, ça dépend de la décision de Dieu, ça dépend pas de la justice. D'accord ? C'est incompatible. D'accord ? Par contre, si tu es pécheur, la justice, elle s'applique. Mais par contre, le salut, elle est par grâce et non par les œuvres. Et ça, les juifs, ils n'ont pas compris. Mais en tout cas, c'est une leçon pour nous, en tout cas. Quand on va évangéliser tout à l'heure, quand on va partager l'évangile, ok, par pure grâce. Tout ce qu'on a, c'est par pure grâce. Tout ce qu'on a eu, déjà notre santé, toutes ces choses-là, c'est la grâce de Dieu, quoi. D'accord ? Après, il continue, tu vois. Verset 16, il confirme, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, mais de Dieu. Et puis après, un exemple très très intéressant, il utilise l'exemple du pharaon, tu vois. Et c'est vrai que quand on lit dans Exode, quand Moïse s'adresse au pharaon, et quand on voit comment pharaon s'est endurci, en fait, il ne voulait pas laisser le peuple d'Israël partir, tu vois. Et pourtant, Dieu a été bon. Combien de fois Dieu a utilisé Moïse pour parler à Pharaon, pour lui dire « lâche mon peuple, tu lâches pas mon peuple », première plaie, après deuxième plaie, troisième plaie, quatrième plaie, cinquième plaie, 6, 7, 8, 9, jusqu'au 10. Vous avez vu le temps que Dieu a pris quand même? Mais ce qui s'est passé chez le Pharaon, qu'est-ce qu'il a? C'est quelqu'un qui s'est endurci. Mais tu as plusieurs raisons par rapport à ça. Tu peux également choisir soit de te repentir et de revenir vers Dieu. Dieu peut te mettre des alertes. Mais tu peux choisir également de dire, bon bah, il n'y a pas d'alerte, tant pis, je continue. Et plus tu t'opposes à Dieu, bah plus l'endurcissement il arrive. Tu vois. Et là, c'est le pire. Parce qu'à la fin, Dieu ne dit plus rien. Et là, il lance son truc. Et là, c'est la cata. Donc en fait, vraiment, le verset 18, il dit, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. D'accord ? Tu me diras encore, verset 19, verset 20, tu vois, pourquoi blâmes-tu encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Et vous voyez par la suite comment l'explication se fait d'une manière très naturelle, tu vois. Finalement, c'est nous, on a notre condition, et Dieu, il a sa propre condition qui n'est pas la nôtre. Nous, nous sommes des vases d'argile. Dieu, c'est lui le créateur. C'est lui qui est à l'origine de toute chose. C'est lui qui nous donne l'intelligence de réfléchir. C'est lui qui nous permet de prendre conscience de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. D'avoir cette notion de justice, tu vois. Et nous, on est encore là devant Dieu, on lui dit, Seigneur, tu ne serais pas injuste ? Alors que c'est Dieu qui t'a donné toute ta capacité de réfléchir à ce que tu es en train de dire à Dieu. Tu vois, il y a une espèce il y a quelque chose d'incorrect. Normalement, voilà. Par pure grâce, Dieu nous permet d'être ce qu'on est, tu vois. Et tu vois, le verset 20 dit, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Et puis après, la réponse, c'est la réponse du créateur, quoi. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? C'est vrai que vu comme ça, tu as envie de dire, mais Dieu ne serait-il pas injuste encore une fois ? Pourquoi il y en a que c'est des vases d'honneur, il y en a que c'est des usages vils ? Pourquoi certains sont utilisés voilà, d'une manière un peu plus riche ? Et d'autres d'une manière un peu plus basique. Moi, ce que je prends conscience aussi, c'est que, de toute façon, quand tu le regardes même nous dans la vie, on n'est pas tous égaux, tu vois. On n'est pas tous, on n'a pas tous cette égalité. Mais Mais des fois, j'ai envie de me dire, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal de ne pas être tous d'un même usage. Il y en a, c'est pour des petites choses, il y en a, c'est pour des grandes choses. Il y en a, ils sont un peu plus intelligents, il y en a, ils sont un peu moins intelligents. Mais. Et voilà quoi, c'est. C'est Dieu qui a décidé comme ça et c'est une diversité en quelque sorte. Mais que le vase soit d'honneur ou le vase d'un usage vil, tant que le vase il sert pour Dieu, je me dis c'est bon quoi. Par contre, vous voyez par la suite, il y a d'autres vases qui apparaissent, verset 22 et verset 23. Il y a des vases de colère et des vases de miséricorde. Bah, que ce soit des vases qui soient d'honneur ou des vases d'un usage vil, si c'est des vases de miséricorde, bah, c'est bon quoi. Par contre, si c'est des vases de colère, c'est moins bon. Le verset 22 et 23, vous pouvez voir. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Donc tu as des vases de colère qui sont formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc voilà, il y a deux types de vases en fait. Et ensuite, verset 24, verset 25. C'est là où on voit que le plan de Dieu, c'est un plan envers des vases de miséricorde. Normalement, on est tous condamnés à la perdition. Normalement, on est tous des vases de colère. C'est clair et net. Et même les Juifs qui avaient tout en avance, c'était des vases de colère. Mais là, ce qui est dit dans Osée, et ça c'est quelque chose qui est déjà dit dans l'Ancien Testament, « Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là, vous voyez encore une fois, c'est pure grâce, quoi. Pure grâce, pourquoi ? Parce que, et ça, Dieu le savait déjà en avance. Hein. C'est pure grâce parce que t'es pas ton peuple, et maintenant tu deviens son peuple. Et ça, c'est pour moi, c'est si j'essaie d'utiliser une image du quotidien. C'est imagine, tu te fais adopter par quelqu'un, tu vois, ou t'es orphelin et tu te fais adopter par quelqu'un. Et tu retrouves une famille. Et là, c'est un peu comme ça, tu vois. C'est que nous, tout à l'heure, il parlait beaucoup des Juifs, tu vois. Mais là, on peut avoir une application par rapport à nous qui sommes des non-Juifs. Autrefois, tout ça était prévu pour les Juifs. Mais Dieu, par pure grâce, il a également appelé les non-Juifs. Et il a dit dans Osée, hein, Osée c'est avant la venue de Jésus-Christ, c'était 600 ou 700 ans avant Jésus-Christ, et il y avait cette parole déjà de prévu, quoi, que Dieu avait déjà prévu dans sa sagesse, dans son intelligence. Il a dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée, tu vois. Bien-aimé, quoi. Ça c'est super fort, tu vois. Parce qu'en fait, on ne mérite pas d'être aimé. Et pourtant... Dieu appelle des gens qui n'étaient pas de son peuple et il l'appelle la bien-aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Tu vois, vraiment, quand on le voit par la suite dans le Nouveau Testament, les chrétiens, c'est non seulement on a reçu le salut, mais il y a encore plus fort que le salut. Dieu nous a adoptés, en fait. On est devenus ses enfants. On est devenus des fils du Dieu vivant. Et ça, c'est super fort, quoi. On est de la même famille. On est ensemble. Et voilà le plan que Dieu avait prévu. Et par la suite, vous pouvez voir du verset 27 au 29, et c'est là où je m'arrêterai. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Là encore, il y a un mot où ça parle de la grâce, c'est un reste. Le mot reste, ça c'est pure grâce encore une fois. Quand vous avez un truc où la majorité des gens vont dans une direction, mais que tu n'as qu'une minorité qui part dans l'autre direction. Et que c'est eux qui sont sauvés et pas les autres. À la fin, quand tu regardes les autres, tu te dis, les autres sont morts et moi je suis sauvé. Ça, c'est une pure grâce aussi. D'accord ? Car le Seigneur exécutera avec justice, pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé là, il parle plus aux Juifs, mais il a aussi prévu de sauver des Juifs. Si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorre. Tu vois, n'oublions pas qu'on voit, Dieu est également un Dieu de justice. Dieu est un Dieu qui juge également. Et vu la manière dont il a jugé Sodome et Gomorre, il aurait pu nous juger de cette manière-là. Mais par sa pure grâce, il nous a vraiment il nous a apporté le salut en Jésus-Christ. Et par ça, on a un moyen d'être réconcilié avec lui. Vraiment, il y a beaucoup de choses que Dieu a faites. Dieu est au contrôle de toutes choses et il a fait beaucoup de choses pour qu'aujourd'hui, nous donnons notre vie à Christ. Soyons reconnaissants, ayons vraiment cette reconnaissance-là. Et ayons ce plaisir de partager l'évangile avec nos propres mots, avec notre propre vécu. Je suis sûr que vous avez des choses. Dieu vous a touché d'une certaine manière. Et c'est un peu l'encouragement que j'aimerais tout simplement vous donner. Ayez cette tristesse, finalement, ce cœur pour les âmes perdues. Et on a vraiment cette chance d'être ses enfants. Donc, c'est quelque chose qui me touche. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté. Et puis, je suis vraiment à votre écoute si vous avez des choses aussi à partager.